Chapitre 5. Un gâteau rose. Demandez à l'élève de s'allonger sur le dos, ni sur un lit confortable, ni sur une surface trop dure. L'un et l'autre distrairaient son esprit. Une couverture pliée au sol suffit. Qu'il ôte ou relâche ses vêtements serrés. Certains pratiqueront mieux l'exercice s'ils sont nus, sans tissu, dont le contact sur leur peau risque de les déconcentrer. Chez d'autres, au contraire, la nudité peut créer une impression de vulnérabilité qui détournera leurs pensées de leur objectif. Laissez chacun décider ce qui lui convient le mieux, sans faire de commentaires. Insistez sur le fait que le seul mouvement doit être celui d'une respiration régulière. Demandez à l'élève de fermer les yeux, puis, sans bouger, de prendre conscience de son corps. Il faudra peut-être le guider tout d'abord. Dites-lui de chercher à percevoir ses orteils sans les toucher ni les remuer, puis de penser à ses genoux sans les plier. Poursuivez avec la peau de sa poitrine, de son front, du dos de ses mains et continuez aussi longtemps que nécessaire à désigner les limites de sa chair jusqu'au moment où vous aurez conduit l'élève à sentir dans leur totalité les confins du corps qu'il habite. Une fois que vous l'aurez ainsi préparé, demandez-lui de trouver les frontières de sa pensée. S'arrête-t-elle à la paroi de son front? La ressent-il comme captive de son crâne ou prisonnière de sa poitrine? À moins d'avoir l'esprit particulièrement obtus, il s'apercevra promptement que le corps n'enferme pas la pensée. Elle s'étend au dehors de notre chair, à l'instar de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et même du goût, tout sens qui nous relie au monde extérieur en demeurant des fonctions du corps physique. Comme eux, la pensée se projette à l'extérieur, mais sans limite de distance ni de temps. Interrogez l'étudiant. Ne sent-il pas l'odeur du vin qui s'échappe d'une bouteille ouverte à l'autre bout d'une pièce? N'entend-il pas les cris qu'échangent les marins au travail d'un bout à l'autre d'un port? Alors qu'il ne refuse pas de se croire capable de percevoir les pensées de l'homme à l'autre extrémité du champ. Préparation des élèves. Traduction de Bois Coudé. Je me rendis tout d'abord à la Tour de Vérité pour voir quels articles de la liste de Lourdes le prince avait réussi à se procurer. À ma grande surprise, non seulement il les avait tous trouvés, mais il m'attendait en personne. Vos amis ne vont-ils pas s'intriguer de votre absence? Demandai-je en parcourant des yeux les objets sur la table. Il secoua la tête. J'ai inventé des prétextes. Parfois ma réputation de personnage un peu singulier, mais bien utile. Personne ne s'étonne de mes brusques besoins de solitude. J'acquiesçai en effectuant le tri de ce qu'il avait apporté. Je pliai l'écharpe rouge et la mis de côté. Je l'ai vue à votre cou. Si je la remarque, d'autres en feront autant. Et si Lourd l'arbore devant tout le monde, on supposera qu'il l'a volé ou qu'il existe un lien particulier entre vous. Dans tous les cas, cela ne fait pas notre affaire. Il en va de même pour ce couteau. J'apprécie que vous acceptiez de vous en séparer, mais une arme aussi finement ouvragée entre ses mains ne manquerait pas de soulever des interrogations. Je posai la dague sur l'écharpe. Le petit gâteau rose saupoudré de sucre était encore légèrement tiède, et il en montait un appétissant parfum d'amande. La plume de paon était longue et elle se balança gracieusement quand je la pris. Dans un saladier en terre cuite, plein de raisins secs mais charnus, luisaient ça et là des noix écalées enrobées de sirop durci. C'est merveilleux. Merci.
Merci, Tom.
Devoir se tut un instant puis demanda. Croyez-vous que l'eau de vin soit venue vous tuer? C'est possible, en effet. Mais Humbre pense qu'il fait peut-être partie d'une délégation de vifiers envoyée pour négocier avec la reine, et il m'a ordonné de me tenir à l'écart jusqu'à nouvel ordre.
Vous ne pouvez donc rien faire pour l'instant?
Oh si, j'ai fort à faire, marmonnai-je. Simplement, je vais me retenir d'aller tuer l'eau de vin sur le champ. Le prince éclata de rire et je mesurai soudain l'imprudence de mes paroles. Heureusement, il avait cru que je plaisantais, et je plaquai un sourire sur mes lèvres. Je vais porter ces cadeaux à Lourdes et voir ce qu'il peut nous apprendre de nouveau. De votre côté, n'oubliez pas d'adopter un comportement aussi normal que possible. Cette perspective ne parut pas le ravir, mais il en reconnut la nécessité. Je sortis par le panneau de la cheminée. Tout en gravissant les marches inégales et en négociant les passages étroits, je tâchais d'analyser les implications de la présence de l'eau de vin à bord de Castelserre. Ketriken avait engagé les vifiers à négocier avec elle. En tant que chef de la faction des Pies, Ils jouaient son rôle en se présentant pour exposer leur vue. Mais, en tant que responsable de la tentative d'enlèvement du prince, il faisait preuve d'une audace confondante en paraissant devant Kétriken. Le vif ne lui vaudrait pas la potence, mais il méritait assurément la mort pour avoir comploté contre les loin-voyants. Cependant, il y avait un hic. La reine ne pouvait l'inculper sans révéler que son fils avait le vif. On avait eu les événements qui avaient entouré la disparition du prince, ou bien on en avait donné des explications inoffensives. Les nobles de la cour étaient convaincus qu'il avait simplement fait retraite quelque temps afin de méditer. Lodvin avait-il l'intention de se servir de ses secrets contre les loin-voyants? Je soupirais en espérant que d'autres membres du lignage, plus modérés, se présenteraient aussi. À mes yeux, Lodvin personnifiait les éléments les pires et les plus extrémistes de notre groupe. C'était ses semblables qui suscitaient la haine et la peur du vif dans la population. S'il venait seul en affirmant parler au nom de tous les vifiers, ses sentiments perdureraient. J'écartais ses réflexions en parvenant à la salle d'Imbre. À mon entrée, je trouvai Lourd assis, l'air tout triste, sur les pierres d'âtre devant le feu mourant. Il contemplait les flamèches, la langue entre les lèvres. « Tu croyais que je t'avais oublié ?» demandai-je. Il se tourna vers moi, et comme il apercevait les cadeaux que j'apportais, une vague effrayante de gratitude jaillit de lui et m'enveloppa. Il se leva, tremblant littéralement d'émotion. « Posons tout ça sur la table, » proposai-je. Il paraissait abasourdi. Il se mit à s'agiter comme un chiot surexcité, pendant que je repoussais d'un geste prudent, manuscrit et encrier, puis plaçais un par un les objets sur la table. « Le prince de Voir m'a aidé à les trouver, » lui dis-je. « Tiens, voici le gâteau rose au sucre. Il est encore tiède. Ça, c'est un saladier de raisin sec pour toi, avec des noix glacées en plus. Le prince a pensé que tu aimerais peut-être y goûter. Et voici la plume de Pan, la plume avec un œil. Tout est pour toi. » Il ne toucha à rien. Il resta devant la table, les yeux écarquillés, les mains crispées sur son ventre arrondi. Ses lèvres remuaient sans qu'en sorte un son, comme s'il disséquait mes paroles.
« Le prince de Voir ? »
fit-il enfin. Je tirai un fauteuil. « Assieds-toi, Lourd. Ton prince te donne toutes ces choses pour te faire plaisir. » Il s'installa lentement dans le siège. À geste hésitant, il avança les mains sur la table et il finit par trouver le courage d'effleurer de l'index le bord de la plume.
« Mon prince, le prince de Voir. »
« C'est cela, » dis-je. J'avais cru qu'il se jetterait voracement sur la pâtisserie et les raisins secs, mais non. Il resta un moment sans bouger, un doigt courteau touchant à peine la tige de la plume. Puis, il prit le gâteau rose et le tourna et le retourna, l'examinant sous tous les angles avant de le reposer avec soin. Délicatement, il tira vers lui le saladier, saisit un raisin sec, le regarda, le renifla, puis le plaça dans sa bouche. Il le mâcha très lentement et l'avala avant d'en choisir un autre. Je percevais toute l'attention qu'il portait à cette activité. On eût dit qu'il artisait chaque grain, qu'il en perçait la nature avant de le manger. J'avais tout mon temps. Monter des seaux d'eau chez le fou, puis dans la salle d'Imbre, n'en demeura pas moins une tâche laborieuse, et avant que je l'eusse achevé, la cicatrice de mon dos me faisait souffrir affreusement, et je comprenais que Lourd détesta ce travail. Je versai enfin le dernier seau dans la grande marmite, que je mis à chauffer tandis que je préparais le baquet. Lourd ne s'occupait nullement de moi. Il continuait à consommer les raisins secs, un par un. Le gâteau rose restait sur la table devant lui, intact. La concentration du petit homme était absolue. Comme je l'observais en attendant que l'eau parvienne à bonne température, je m'aperçus que ses dents lui causaient du tracas. Il paraissait avoir du mal à mâcher, et cela devint encore plus évident quand il s'attaqua aux noix. Sans rien dire, je le laissai à ses lentes mastications. Quand il eut fini, je pensais qu'il allait s'en prendre au gâteau rose, mais je me trompais encore une fois. Il le plaça bien en face de lui et l'admira. Quelque temps plus tard, l'eau commença de fumer et je demandai d'une voix douce « Tu ne manges pas ton gâteau, Lourd ?» Il plissa le front d'un air pensif.
« Si je le mange, il n'y en a plus, comme les raisins secs. »
J'acquiesçais lentement. « Mais tu pourrais peut-être en avoir un autre, de la part du prince. » Son expression redevint méfiante.
« Du prince ?
Bien sûr. Si tu fais de bonnes choses pour aider ton prince, il te donnera sans doute de bonnes choses en échange. Je lui laissai un moment pour digérer cette déclaration, puis demandai. Lour, as-tu d'autres vêtements ?
D'autres vêtements ?
D'autres que ce que tu portes. Une chemise et un pantalon de rechange. Il secoua la tête.
Non, rien que cela.
Même moi, je n'avais jamais été aussi mal nanti. J'espérais qu'il se trompait. Que mets-tu quand tu donnes ces habits à la lessive ? Je versai l'eau brûlante dans le baquet.
À la lessive ?
J'abandonnais. Je n'avais nulle envie d'en apprendre davantage. Lour, je t'ai monté de l'eau et je l'ai fait chauffer pour que tu puisses prendre un bain. Sur une étagère, je pris la trousse de couture d'imbre. Je pouvais à tout le moins raccommoder les accros les plus béants.
Un bain ? Comme la toilette à la rivière ?
Si tu veux, mais avec de l'eau chaude et du savon. Il réfléchit un instant puis répondit.
Je ne fais pas ça.
Il reprit sa contemplation du gâteau rose. Tu devrais essayer. Ça te plairait peut-être. C'est agréable de se sentir propre. Pour le tenter, je provoquai de la main quelques éclaboussures dans le bain. Il resta un moment à me considérer fixement, puis il repoussa son fauteuil et s'approcha du baquet. Il regarda l'eau. Je l'agitai de nouveau pour créer des remous. Lentement, il s'agenouilla et, se tenant d'une main au rebord de la cuve, il m'imita de l'autre. Avec un grognement amusé, il dit
« C'est chaud !»
C'est agréable de s'asseoir dedans et d'avoir chaud partout, et puis de sentir bon après. Il eut un bruit de gorge qui n'était ni d'approbation ni de refus. Il enfonça davantage sa main dans l'eau et trempa son bras de chemise en lambeaux. Je me redressai et m'éloignai, le laissant se familiariser seul avec le bain. Il lui fallut quelque temps pour achever ses expériences. Quand ses deux manches furent mouillées jusqu'aux épaules, je lui suggérai qu'il ferait mieux d'ôter sa chemise. L'eau s'était notablement refroidie quand il jugea pouvoir se risquer à enlever ses chaussures et son pantalon et à s'installer dans le bain. Il ne portait pas de sous-vêtements. Il prit un air soupçonneux quand je voulus ajouter de l'eau chaude, mais après réflexion, il me laissa faire. Il s'amusa davantage avec le savon et le linge de toilette qu'il ne les utilisa, et bien qu'il se détendît peu à peu à la chaleur du bain, le convaincre de se laver non seulement le visage, mais aussi les cheveux, puis de les rincer ensuite, ne fut pas une mince affaire. Dans le courant de notre conversation décousue, j'appris qu'il n'avait plus fait de toilette depuis la fête du printemps. Nul ne le lui avait rappelé depuis la mort de sa mère. Je mesurais alors combien sa solitude était récente. Quand je lui demandais comment il s'était retrouvé domestique au château, il ne sut me répondre clairement. Il avait dû entrer un jour par hasard, et avec l'arrivée massive de population pour la fête du printemps, puis la cérémonie de fiançailles, les gens de Castelserre avaient simplement supposé qu'il était employé par un des invités. Il faudrait que je m'enquière auprès d'Imbre sur la façon dont il était entré à son service. Pendant que Lourdes découvrait l'usage du bain et du savon, je ravaudais rapidement ses habits dans la mesure de mes moyens. Là où les coutures avaient cédé, le travail fut assez facile malgré la crasse incrustée dans le tissu, mais il avait troué ses coudes et ses genoux à force d'usure et, sans pièces pour les raccommoder, je dus les laisser en l'état. Quand des rides apparurent au bout de ses doigts, je le fis sortir du bain, lui trouvai une serviette pour se sécher et lui dis de se placer devant le feu. Je plongeai ses vêtements dans l'eau grisâtre et les frottai rapidement mais avec énergie avant de les pendre à des dossiers de fauteuil. Ils n'étaient pas propres, mais ils étaient moins sales. Persuadé Lourdes de s'asseoir et de me laisser défaire les nœuds de sa tignasse me demanda autant d'efforts que le convaincre d'entrer dans le bain. Il continua de se méfier du peigne, même après que je lui eus fourni un miroir pour surveiller mes gestes. Jamais ma diplomatie n'avait été mise à aussi rude épreuve depuis que j'avais adopté Heure, et dû lui expliquer que lentes époux ne font pas naturellement partie de la chevelure. Récuré, séché, peigné, l'ours s'avachit devant le feu, enveloppé dans une des courtes pointes d'imbre, sans doute épuisé par son bain chaud. Je retournai une de ses chaussures trouées entre mes mains. J'avais appris l'art de la cordonnerie sous la tutelle de Buric. Je pourrais t'en fabriquer de nouvelles dès que j'aurai eu l'occasion de descendre en ville acheter du cuir, lui dis-je. Il hocha la tête paresseusement, sans plus s'étonner de tant de générosité. J'approchai ses vêtements humides de la cheminée. En revanche, j'ignore comment te procurer des habits pour l'instant. Mes connaissances en couture concernent les réparations plutôt que la fabrication. Mais nous trouverons. Il hocha de nouveau la tête. Je réfléchis un moment, puis me rendis à la vieille garde-robe d'Imbre, dans un coin de la salle. J'y découvris quelques-unes de ses vieilles robes de travail. L'une d'elles avait été roussie par le feu, et presque toutes les autres portaient des taches et des éclaboussures de toutes sortes. Il y avait sans doute des années qu'il ne les avait plus enfilées, et elles étaient plus propres et en meilleur état que les haillons de lourd. J'en pris une, la tins à bout de bras pour en juger la longueur, et la raccourcis impitoyablement en quelques coups de ciseaux. « Voilà. Ainsi tu auras quelque chose à te mettre en attendant qu'on te fabrique d'autres tenues. » C'est à peine s'il acquiesça de la tête à demi assoupi, le regard perdu dans les flammes. Dans cet état de relâchement, la musique de son art crut en volume. Ma première réaction fut de dresser mes murailles, puis je me ravisai et m'ouvris au contraire. Je m'installai dans l'autre fauteuil avec la robe et le matériel de couture et jetai un coup d'œil discret à Lourd. Il paraissait au bord de l'endormissement. Je passai mon fil dans le chat de l'aiguille, puis, en commençant à coudre l'ourlet, je lui demandai à voix très basse. « Alors, il me traite de chien puant, c'est ça ?»« La mélodie changea légèrement. Les notes devinrent plus nettes. Tintement d'un marteau de forge sur du fer rouge, claquement de porte, bêlement d'une chèvre à laquelle une autre répondit. J'ouvris mon esprit à la musique et la laissai porter mes pensées tout en regardant mes doigts pousser machinalement l'aiguille dans le tissu et la retirer plus loin. Lourd, te rappelles-tu la première fois où tu les as rencontrés, ceux qui m'appellent chien puant? Montre-moi, s'il te plaît. Je mêlai délicatement ma demande artisée au murmure de ma voix et au mouvement répété de mon aiguille. J'écoutais le chuintement imperceptible du fil dans le tissu, les craquements étouffés du feu, et fondis ces éléments infimes à mon message. Lourd resta un moment silencieux, hormis les notes d'art qui émanaient de lui. Enfin, j'entendis les bruits de mon aiguille et du feu s'insinuer dans sa musique.
« Il a dit, pose ton seau et suis-moi. »
« Qui a dit ça ? » demandai-je d'un ton trop avide. La mélodie se tut, et Lourd répondit à haute voix.
« Je ne dois pas parler de lui, sinon il me tuera. Il me tuera avec un grand poignard. Il m'ouvrira le ventre et mes tripes tomberont par terre. »
En esprit, il voyait ses propres entrailles se répandre sur le pavé d'une rue de Bourg-de-Castelserre.
« Comme des tripes de cochon !»«
Ça n'arrivera pas, j'y veillerai, » promis-je. Il secoua la tête d'un air buté, puis se mit à respirer par saccades.
« Il a dit, « Personne ne peut m'en empêcher, je te tuerai. Si je parle de lui, il me tuera. Si je ne surveille pas le doré, le vieux et toi, il me tuera. Si je ne regarde pas par le trou de la serrure et que je n'écoute pas pour lui dire ce que vous dites, il me tuera. Toutes mes tripes par terre !»
Et unis comme nous l'étions par l'art, je perçus que Lourd en était absolument convaincu. Mieux valait abandonner ce sujet pour le moment. « Très bien, » répondis-je d'une voix douce. Je me laissai aller contre le dossier de mon fauteuil et me concentrai à nouveau sur mon ouvrage. « Ne pense pas à lui, » fis-je d'un ton insinuant, « mais seulement aux autres, ceux que tu as rencontrés. » Il hocha lourdement sa grosse tête en contemplant les flammes. Au bout de quelques instants, sa musique renaquit. Je réglai ma respiration sur son rythme, puis les mouvements de mes doigts. Peu à peu, discrètement, je rapprochai mon esprit du sien et finis par l'effleurer. Retenant mon souffle, je piquai mon aiguille dans le tissu et la retirai plus loin, suivi de son long fil ondoyant. Lourd respirait lentement, la bouche fermée, les yeux fixés sur le feu. Je ne lui posais pas de questions et laissais son art s'infiltrer en moi. Il n'avait pas aimé la première rencontre, pas du tout, ni la longue descente à pied, à une allure trop vive, depuis le château jusqu'au bourg, ni la main de son compagnon qui n'avait pas lâché sa manche de tout ce trajet épuisant. Il était plus grand que Lourd, celui qui le tenait ainsi, ce qui avait obligé le petit homme à marcher de guingois et trop vite. Au bout du long chemin qu'il avait parcouru à son corps défondant, il avait les jambes douloureuses et la bouche sèche. Dans ses souvenirs, celui qui tenait sa manche l'avait secoué jusqu'à ce qu'il réponde à toutes les questions qu'on lui avait posées dans la pièce. Ses réminiscences n'avaient rien de flou. Au contraire, elles étaient surchargées de détails. Il se rappelait aussi clairement son ampoule au talon que les propos de l'homme. Les bêlements d'une chèvre non loin de là et les grincements des lourds chariots qui passaient dans la rue avaient autant de poids que la voix de son interrogateur. On l'avait secoué sans ménagement à plusieurs reprises pour lui arracher des réponses, et il gardait un souvenir vif de la peur et de l'incompréhension où le plongeaient ses traitements. Le vague des renseignements qu'il avait donnés à l'homme tenait à son ignorance autant qu'à son sens singulier des priorités. Il avait parlé de ses tâches aux cuisines, et on lui avait demandé quel seigneur il servait, mais il ne savait pas leur nom. Les inconnus, tout d'abord impatients, avaient ronchonné, et l'un d'eux avait reproché vertement à celui qui avait amené Lourdes de leur faire perdre leur temps. Puis, le simple d'esprit s'était plaint du travail supplémentaire et des escaliers qu'il devait gravir à cause du vieux à la figure pleine de trous.
Imbre, le seigneur Imbre, le conseiller de la reine,
avait murmuré l'un des hommes d'une voix sifflante, et tous s'étaient rapprochés de Lourdes. Ils avaient appris ainsi qu'Imbre exigeait qu'il range les petites bûches d'un côté, les grosses de l'autre, et qu'il nettoie les marches quand il renversait de l'eau. Il ne devait jamais toucher au manuscrit, éparpiller les cendres par terre, ouvrir la petite porte si quelqu'un pouvait le voir. Seule cette dernière interdiction avait paru les intéresser. Mais, après qu'ils l'avaient interrogé quasiment en pure perte sur ce sujet, Lourdes les avait sentis à nouveau mécontents. Il avait eu peur, mais l'homme qui l'avait amené avait déclaré que c'était seulement la première fois et qu'on pouvait dresser l'idiot à surveiller ce qu'on voulait. Alors quelqu'un lui avait indiqué d'autres cibles.
« Un seigneur jamaïlien, à fanfreluche, aux cheveux blonds et au teint doré. Il monte un cheval blanc et il a un chien puant de serviteur avec le nez cassé et une cicatrice en travers de la figure. »
Lourdes n'avait reconnu ni Sire Doré ni moi, au contraire de l'homme qui le tenait par la manche et qui avait promis de me désigner au simple d'esprit. Quelqu'un avait alors déposé de l'or dans sa main tendue, de grosses pièces qui tintaient, et il avait donné aussi des pièces à Lourdes, 3 piécettes d'argent qui avaient sonné comme un carillon en tombant dans sa paume. Puis, il avait prévenu Lourdes et le domestique sans visage qu'il l'agrippait toujours.
« Méfiez-vous de ce chien puant de traître, il vous tuera sans hésitation s'il vous soupçonne de l'espionner. »
Je sentis le regard noir de l'homme vriller le mien. Porté par l'art au milieu des souvenirs de Lourdes, je m'efforçais de distinguer ses traits, mais le simple d'esprit ne se rappelait que ses yeux perçants.
« Ce chien puant a tranché le bras d'un homme la dernière fois que je l'ai vu. Tchac ! Comme une saucisse sur la table. Il vous fera encore pire s'il s'aperçoit que vous le surveillez. Alors prudence, l'idiot. Ne te fais pas voir. »
Ces mots, accompagnés des bêlements de la chèvre et du grondement des chariots, se mêlaient dans l'esprit de Lourdes au sifflement du vent d'hiver qui soufflait en rafale dans la rue. Des marteaux de forgeron imposaient un rythme aux sonorités métalliques. Tandis qu'il reprenait le chemin de Castelserre, le domestique avait répété à Lourdes
« Il ne faut pas que ce chien puant dont il a parlé t'attrape. Tu dois le surveiller sans te faire voir. Tu m'entends, demi-portion. S'il te repère, tu te feras tuer, et moi, je perdrai mon boulot. Alors prends garde. Ne te fais pas voir, tu m'entends? Tu m'entends ?»
Comme Lourdes se recroquevillait en bredouillant qu'il entendait, l'homme avait exigé les pièces qu'il avait reçues.
« Tu ne saurais pas quoi en faire, l'idiot. Donne-les-moi. »«
Elles sont à moi, pour m'acheter une friandise, il a dit, un gâteau. »
Mais le serviteur avait frappé Lourdes et pris son argent. Baignant dans le flot d'art du simple d'esprit, je revivais l'épisode avec lui. Lorsque l'homme le gifla d'un coup qui lui laissa les oreilles tintantes, la vague d'art qui s'éleva faillit me submerger. Il était inutile de chercher à distinguer les traits de la brute. Lourdes avait rentré le cou dans les épaules et fermé les yeux devant la main qui s'abattait.
« Regarde-le, Lourdes, je t'en prie, laisse-moi le voir. » fis-je d'un ton implorant.
Mais le souvenir de la peur qu'il avait éprouvée, mêlé à la brusque haine que m'inspirait l'homme, fit éclater la bulle d'art que nous partagions. Lourdes poussa un cri inarticulé, voulut éviter la gifle qui n'existait plus que dans sa mémoire, et tomba de son fauteuil. Sa chute l'amena dangereusement près du feu. Je me levai d'un bond, étourdi par la brutale rupture de notre contact. Je le saisis, enveloppé de sa couverture, pour l'écarter de l'âtre. Et il crut sans doute que je l'attaquais, car il riposta violemment.
« Non, plus le chien, non, ne me vois pas, ne me fais pas de mal, ne me vois pas, ne me vois pas !»
Je m'écroulais comme si j'avais reçu un coup de hache. Je m'étais tant ouvert à son esprit que je restais complètement aveugle pendant un moment, et je sentis même l'odeur âcre d'un chien mangé de galles. Rapidement, je retrouvai la vue, mais il me fallut toute ma concentration pour dresser mes murailles d'art. Je laissai encore passer un peu de temps, et je réussis à me mettre à quatre pattes. Je passai ma main dans mes cheveux, m'attendant à la ramener couverte de sang, tant la douleur était intense. Puis je m'assis, agité de tremblements incoercibles, et parcourus la salle du regard. L'ours s'exprimait à enfiler son pantalon humide, en poussant des grognements frénétiques de peur et d'exaspération. Je pris une grande inspiration et dis d'une voix croissante « L'ours, tout va bien. Personne ne te fera de mal. » Il continua ses efforts sans me prêter la moindre attention. Je me relevai en m'aidant du fauteuil, puis je pris la robe que j'étais en train de coudre. « Attends, Lourd, je vais bientôt avoir fini. Tu seras au sec et au chaud. » Et je m'assis avec précaution. J'avais enfin compris. J'avais compris pourquoi il m'appelait plus le chien. Pourquoi il me haïssait et me craignait à la fois. Pourquoi il me donnait l'ordre de ne pas le voir. Même ses discours obscurs à propos de quelqu'un qui l'avait frappé et lui avait pris ses pièces s'éclairaient à présent. Lourd n'avait pas cherché à nous dissimuler ses secrets. C'est nous qui n'avions pas eu l'intelligence de voir ce qui se trouvait sous notre nez. J'avais du mal à distinguer nettement l'aiguille, mais je fis un effort et j'y parvins. Une dizaine de points et j'achevais mon travail. J'arrêtai le fil, coupai le surplus d'un coup de dent et brandis la robe devant moi. « Tiens, mets ça pour le moment, en attendant que tes habits finissent de sécher. » Il lâcha son pantalon, mais ne bougea pas.
« Tu es en colère. Tu vas me frapper. Peut-être me couper le bras ?»«
Non, Lourd. Tu m'as fait mal, mais c'est parce que tu avais peur. Je ne suis pas en colère contre toi, et je ne te couperai jamais le bras. Je ne veux pas te frapper. »
« Le manchot a dit. »
« Il ment. Et ses amis aussi. Ils disent beaucoup de mensonges. Réfléchis. Est-ce que je sens le caca de chien ?» Il se tut un instant, puis répondit avec réticence.
« Non. »
« Est-ce que je te frappe ? Ou que je te coupe les bras ? Allons, viens prendre cette robe. Tu as l'air d'avoir froid. » Il s'approcha prudemment.
« Non. »
Il examina le vêtement avec méfiance.
« Pourquoi tu me donnes ça ?»«
Parce que c'est comme un gâteau rose, des raisins secs ou une plume. Le prince tient à ce que tu portes de plus beaux habits. Celui-ci te tiendra chaud en attendant que les tiens soient secs, et bientôt, le prince t'en fera fabriquer des neufs. » Rempart dressé, je m'avançai vers lui avec circonspection. J'ouvris le col de la robe, le plaçai au-dessus de lui et l'enfilai sur sa tête. Le vêtement était encore trop long. Il fit des plis par terre tout autour de lui, et quand Lourd trouva enfin les manches, elles pendirent de ses mains. Je l'aidai à les retrousser, puis je me servis de la bande de tissu que j'avais découpée pour lui faire une ceinture de fortune. La robe ainsi pincée à la taille, il pouvait se déplacer sans se prendre les pieds dans l'ourlet. Il serra le tissu sur lui.
« C'est doux. »
« Oui. Enfin, plus doux que tes vieilles affaires, peut-être. C'est surtout plus propre. » Je retournai m'asseoir dans mon fauteuil. Ma migraine commençait déjà à s'estomper. Humbre avait-il raison quant aux douleurs qu'entraînait l'art. En revanche, ma chute brutale au sol avait réveillé les meurtrissures et les bosses que je devais au père de Svania. Je poussai un profond soupir. « Lourd, combien de fois as-tu vu ces hommes ?» Il resta un moment pensif, la langue pointant entre ses lèvres.
« Les jours de lessive ?»«
Je sais, tu y vas les jours de lessive, mais combien de fois y es-tu allé ?» Sa langue se colla contre sa lèvre supérieure pendant qu'il se plongeait dans ses souvenirs. Enfin, il hocha la tête et déclara d'un ton assuré.
« Tous les jours de lessive !»
Je n'obtiendrai pas mieux, je le savais. Descends-tu seul à la ville ? Son visage s'assombrit.
Non. Je pourrais, mais il m'interdit.
Parce qu'il veut l'argent que les hommes lui donnent, et aussi celui qu'il te donne. Il se rembrunit encore.
Il frappe Lourd et il prend ses pièces. Alors, le manchot te met en colère, je lui ai dit. Maintenant, il prend les pièces. « Mais il me rend quelques sous pour acheter des bonbons. »«
Qui fait ça ?» Il se tut un moment.
« Je ne dois pas parler de lui. »
Je captai un écho de peur lorsque sa musique d'art enfla soudain, pleine de bêlements et de tintements de harnais. Il se gratta la tête, puis ramena une mèche de sa tignasse devant ses yeux.
Tu vas me couper les cheveux. Ma maman me coupait les cheveux, quelquefois, après ma toilette.
Tiens, oui, c'est une bonne idée. On va s'en occuper. Je me redressai avec raideur. J'avais dû me cogner le genou en tombant, car il était douloureux. J'éprouvais un sentiment de frustration, mais je savais que, si j'essayais d'arracher de force des renseignements à Lourd, sa peur l'inciterait à les enfouir encore plus profondément. « Assieds-toi à table, Lourd, pendant que je cherche des ciseaux. As-tu le droit de me dire quelque chose sur ces hommes, sur le manchot, où il habite par exemple ?» Sans répondre, il se dirigea vers la table et y prit place. Presque aussitôt, il s'empara du gâteau rose et l'examina soigneusement. Comme il le retournait entre ses mains, il parut oublier tout ce qui l'entourait. Je rapportai les ciseaux. « Lourd, que te dit le manchot ?» Il ne me regarda pas et s'adressa à la pâtisserie.
« Je ne dois pas parler de lui, à personne. Sinon, ils vont me tuer et mes tripes vont tomber par terre. »
Des deux mains, il tapota son ventre rond, comme pour s'assurer qu'il était intact. Je saisis le peigne et coiffai ses cheveux humides. Il s'apaisa et se remit à contempler le gâteau. « Je vais te les couper à hauteur du menton. Ainsi, tu n'auras pas froid aux oreilles ni à la nuque. »«
Oui, »
murmura-t'il, perdu dans sa rêverie. Ma tâche me fit penser à Heure, et la nostalgie du petit garçon qu'il avait été m'envahit soudain. Lorsqu'il avait 10 ans, il m'était facile d'être sûr que je m'occupais bien de lui, lui fournir des repas convenables, lui apprendre à pêcher, veiller à ce qu'il porte des vêtements propres et dorme son sou. Voilà les soins principaux dont avait besoin un enfant. Un adolescent, c'était une autre paire de manches. Peut-être trouverais-je le temps dans la soirée de passer le voir. Les lames argentées cliquetaient et des mèches d'inégale longueur tombaient autour du fauteuil de Lourd. Une nouvelle approche me vint à l'esprit. Je sais que tu ne dois rien me dire sur le manchot. Je sais que tu ne dois pas parler de lui. Alors, je ne te demanderai rien sur lui. Pas même quelles questions il te pose. Mais tu peux me dire ce que tu lui réponds, non? On ne te l'a jamais interdit, n'est-ce pas?
Non.
Fit-il lentement en réfléchissant. Il poussa un grand soupir et se détendit sous mes mains. Puis il murmura.
Le manchot.
Et l'image de l'eau de vin parvint à mon esprit, portée par sa musique. Il était plus maigre que dans mon souvenir, mais cela n'avait rien d'étonnant après une amputation et la fièvre qui s'en était suivie. Je devais lever les yeux pour le regarder, et après un instant de désorientation, j'acceptai le point de vue de Lourd sur l'homme qui le dominait. Malgré tout, ses traits restaient vagues. Lourd se rappelait plus les sons que les éléments visuels. Ce qu'il voyait en esprit n'avait pas du tout la netteté de ce qu'il entendait. J'écoutais la voix de l'eau de vin ébranler la mémoire de Lourd, et je tremblais avec lui devant son mécontentement.
« C'est ça, ta source de renseignements? Mais à quoi penses-tu, Paget? Est-ce ainsi que tu te charges de mes priorités? Il ne fait pas du tout l'affaire. C'est à peine s'il se rappelle son propre nom. Comment veux-tu qu'il retienne quoi que ce soit ?»« Il conviendra très bien, » répondit quelqu'un.
Je supposais qu'il s'agissait du nommé Paget.
Il nous en a déjà beaucoup appris, hein, l'idiot? Le vieux qui s'est pris d'affection pour lui, pas vrai, Lourd? Pas vrai que tu travailles pour le seigneur Imbre en personne, maintenant? Parle-lui du seigneur Imbre et de sa pièce particulière.
Il s'adressa ensuite à l'eau de vin.
Ça a été un vrai coup de chance. Quand le palefrenier nous l'a amené ici, j'ai pensé comme toi qu'il ne nous servirait à rien. Mais au château, on laisse ce crétin se promener où il veut. Et il en sait très long sur de nombreux sujets. Il suffit de s'y prendre comme il faut pour lui tirer les vers du nez.
Je ne voyais pas Paget par les yeux de Lourd, mais je sentais sa présence. Celle d'un homme imposant, de carrure plus que de taille, et menaçant, capable d'infliger de la douleur avec ses mains sans recourir au cou. Une nouvelle voix s'éleva. Féminine celle-là.
Il travaille bien pour nous, cavalier. Ne tentez pas de... Comment dites-vous? De changer de cheval au milieu du gué? Oui. Si ce que nous proposons vous intéresse, ne changez pas ce qui nous est utile.
J'avais déjà entendu cette voix. Je fouillai ma mémoire pour la remettre, mais parvins seulement à la conclusion qu'elle appartenait à quelqu'un du château. J'opérais cette réflexion dans un petit coin de mon esprit, de crainte de rompre le fil des souvenirs de Lourd. Il avait été plongé dans l'incompréhension et la peur ce jour-là, effrayé par l'arrivée du manchot et la façon dont tout le monde parlait sans se préoccuper de sa présence. Pourtant, l'homme qui agrippait sa manche ne l'avait pas lâché une seconde. Dans la réponse de Lodvin sonnaient les coups d'un marteau de forgeron.
« Je me fiche de ce qui vous est utile, femme, autant que votre proposition. Ma vengeance m'appartient, et je ne vous la donnerai pas contre l'or étranger. Cet timbre m'est indifférent. Ce que je veux, c'est la tête de cire dorée et le bras du chien qui travaille pour lui. L'aurais-tu oublié, Paget, trop occupé que tu étais à vendre les pies aux plus offrants ? Ce cire doré me doit une vie, et son traître de valet, un bras.
Je n'ai pas oublié, Lodvin, j'étais avec toi. »
La voix de Paget était fondue au sourd grondement d'un chariot, dont les roues grinçaient de colère et de reproches.
« Ne te souviens-tu pas que j'ai chevauché en croupe avec toi ce jour-là pour t'empêcher de tomber de ta selle ? Quand la femme m'a soumis son offre, je me suis dit simplement « Bah, quelle importance la façon dont il meurt ! Laissons-les lui et employons son or pour notre cause, pour renverser le trône des loin-voyants. »
Il avait pris un ton empreint de vertu, mais, dans l'esprit de Lourd, sa déclaration s'était mêlée à un bêlement lointain.
« La ferme !»
La voix de Lodvin était brûlante et dure, et elle tintait comme des marteaux sur du fer blanc.
« La façon dont il meurt m'importe, à moi, et ma vengeance n'est pas à vendre. Notre cause attendra que j'aie satisfait la mienne. Je t'avais donné des instructions, Paget. Je veux savoir à quelle heure il se lève, où il mange, quand il sort à cheval et où il dorme. Je veux savoir où et quand je peux les tuer. Voilà les renseignements qu'il me faut. Ton demeuré peut-il me les fournir ? »
Chaque mot tombait comme un coup de masse sur la colère de Paget, et la modelait peu à peu.
« Oui, il en est capable. Il nous en a déjà donné bien davantage, comme tu le saurais si tu voulais bien m'écouter. Ce seigneur humbre et ce cancel idiot, c'est important, mais si tu ne t'intéresses qu'à la vengeance. Sans penser à tout ce que nous pouvons apprendre par ailleurs, eh bien oui, il est en mesure de te dire ce que tu veux, à condition de l'interroger comme il faut. Vas-y, l'idiot, parle-lui du chien puant de traître qui lui a tranché le bras. Dis-lui comment le vieux l'appelle. Il comprendra peut-être alors que j'ai mieux œuvré pour l'épi pendant qu'il guérissait de sa blessure, que lui, à l'époque où il avait encore ses deux mains. »
À cet instant, l'ours se rappela le bruit d'un poing frappant la chair, puis la voix de Lodvin, un peu essoufflée.
« N'oublie pas ta place, Paget, ou tu risques de la perdre. »
L'ours se pencha brusquement en avant et se prit la tête entre les mains. Il se balança dans son fauteuil en poussant de faibles gémissements d'animal, troublé à l'extrême par la violence dont il avait été témoin.
« Non, 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 non !»
fit-il d'un ton suppliant. Et je n'intervins pas. Je restai immobile, ciseaux et peigne en l'air, en attendant qu'il se calme. Il était cruel de ma part d'obliger le petit homme à revivre sa peur. Je n'y prenais nul plaisir, mais mon devoir me le commandait. Pendant qu'il s'apaisait, j'employai l'art avec toute la délicatesse dont j'étais capable pour le tranquilliser et le ramener dans la pièce de son souvenir. « Tu peux te rappeler sans crainte, » dis-je à mi-voix. « Tu es en sécurité ici avec moi. Ils ne peuvent pas te trouver, ni te faire de mal. Tu es en sécurité. » Par notre lien d'art, je le sentis se raidir et résister. J'exerçais une pression légère et tout à coup, sa mémoire s'ouvrit à nouveau. Il prit une longue inspiration et soupira profondément. Je me remis à l'ouvrage sur cet ignace. Le contact régulier du peigne et le chatouillis des cheveux qui tombaient avaient dû le plonger dans un état proche de la stupeur. Personne ne le touchait guère, sans doute, et encore moins avec douceur. Il se détendait comme un chiot sous la caresse, et il émit un grognement d'acquiescement. « Alors, après cette scène, de quoi lui as-tu parlé ?» Je m'exprimais d'un ton très apaisant.
« Oh, de rien. Du vieux seulement. Comment il range son bois. Je ne dois pas secouer les bouteilles de vin que je lui apporte. Je dois enlever la vaisselle sale et les restes du repas tous les matins. Je ne dois pas toucher à ses papiers, même s'il te laisse les toucher, toi. Il dit que je dois faire ce que tu me commandes, même si je n'ai pas envie de te voir. Il dit que tu veux me parler. Et ils disent « N'y va pas, dis que tu as oublié. » Et quelquefois vous parlez ensemble la nuit. »
Qui ça ? Humbre et moi ? Je passais lentement le peigne dans ses cheveux et coupais les petites mèches qui dépassaient. Les pointes noires et humides tombèrent au sol tandis que mon cœur se mettait à marteler mes côtes quand j'entendis sa réponse.
« Oui, vous parlez de l'art et du lignage. Il t'appelle autrement, Fitzchevely. Et tu n'es pas content parce que j'entends la fille qui pleure. »
L'effroi qui m'avait saisi à l'audition de mon nom déformé se perdit dans l'angoisse qui m'envahit à la mention de la fille. « Quelle fille ?» demandai-je dans une sorte d'hébétude, en formant le vœu qu'il se contente de « la fille » ou « je ne sais pas ». Mon estomac se tordait de terreur.
« Elle pleure tout le temps ?»
fit Lou à mi-voix. « Qui ?» La peur me tenaillait le cœur.
« La fille, l'ortie qui pleurniche la nuit sans s'arrêter. »
Il pencha la tête de côté et je taillais trop profondément dans la masse de ses cheveux.
« Elle pleure en ce moment. »
La corde de mon angoisse se tendit à se rompre. « Tu es sûr ?» Avec prudence, je baissai mes murailles et m'ouvris à Ortie, mais je ne perçus rien. « Non, on ne l'entend pas. »
« Elle pleure pour elle seule, ailleurs. »
« Je ne comprends pas. »
« Dans l'endroit vide. »
« Je ne comprends pas, » répétai-je avec une inquiétude grandissante. Il fronça les sourcils un moment, l'air concentré, puis son visage se détendit soudain.
« Pas grave, elle a arrêté. »
Comme ça, d'un seul coup, je n'en croyais pas mes oreilles. Je posai mes ciseaux et mon peigne.
« Oui. »
Il fouilla une de ses narines d'un index nonchalant.
« Je m'en vais. »
annonça-t-il de but en blanc. Il se leva et parcourut la salle du regard.
« Ne mange pas mon gâteau. »
me dit-il d'un ton menaçant. Promis, tu es sûr que tu ne veux pas rester pour y goûter ? Je me trouvais dans une espèce d'état de choc qui m'interdisait d'éprouver la moindre émotion. L'eau de vin avait-il reconstitué mon vrai nom à partir de la bouillie pour chat qu'en faisait lourd ? En tout cas, il connaissait celui de ma fille. L'abîme s'ouvrait sous nos pas, et j'entretenais un simple d'esprit de pâtisserie.
« Si je le mange, il n'y en aura plus. »
Et il y en aura peut-être un nouveau.
« Mais peut-être pas !»
répliqua-t-il avec une logique imparable. J'ai une idée. Je me dirigeais vers un des meubles à étagères les moins encombrés d'imbre et entrepris d'y ménager un espace. « Nous allons te faire une place ici, et nous y mettrons les affaires de lourd. Ainsi, tu les retrouveras toujours. » J'ignore pourquoi, mais il parut avoir du mal à saisir ce concept. Je le lui expliquai de différentes façons, puis je lui fis ranger le gâteau et la plume sur l'étagère. D'un geste hésitant, il prit le saladier qui avait contenu les raisins secs. Il n'y restait qu'une poignée de noix glacées. « Tu peux le poser aussi, » lui dis-je. « Je tâcherai de le remplir à nouveau de friandises. » Il s'exécuta, puis recula et admira un moment ses possessions.
« Je m'en vais, »
répéta-t-il brusquement. Lourd, fis-je avec circonspection. « Demain, c'est jour de lessive. Quelqu'un va-t-il t'emmener voir le manchot ?»«
Je ne dois pas parler de lui. »
Il était catégorique et terrifié. Je percevais le trouble de sa musique d'art. « As-tu envie d'y aller, lourd, d'aller voir le manchot ?»«
Je suis obligé. » »«
Non, plus maintenant. As-tu envie d'y aller ?» Ma question exigeait manifestement une grande réflexion. Il répondit enfin.
« Je veux les sous pour acheter des bonbons. »
« Si tu me disais où se trouve le manchot, je pourrais m'y rendre à ta place, je prendrais les sous et je t'achèterais des bonbons. » Il fronça les sourcils et secoua la tête.
« Je prends mes sous tout seul. Je préfère acheter mes bonbons tout seul. »
Sa méfiance était revenue et il s'écartait de moi en crabe. Je respirais profondément et me contraignis à la patience. Dans ce cas, à demain pour notre prochaine leçon. Il hocha la tête d'un air sombre et sortit. Je ramassai son pantalon humide qui traînait par terre et le jetai à nouveau sur le dossier du fauteuil. Nul ne s'interrogerait sans doute sur la robe que j'avais donnée à Lourd. Elle était d'un style passé de mode depuis des années à Castelserre, et les domestiques, surtout du rang le plus bas, portaient souvent les vieux habits de leur maître. Je soupirai, puis m'assis, et me perdis dans la contemplation du feu. Qu'allais-je faire ? Je regrettais de ne pouvoir obliger Lourd à me révéler où se cachait l'eau de vin, ou du moins qui l'emmenait auprès du chef d'épi, mais lui extorquer ses renseignements par la violence ne manquerait pas de l'effrayer et d'anéantir la fragile confiance qui s'était établie entre nous aujourd'hui. Certes, je pouvais le suivre discrètement à Bourg-de-Castelserre le lendemain, mais je n'y tenais pas. Je le mettrais en danger si Lodevin ou un autre repérait ma filature et me reconnaissait. Et, même si on ne me découvrait pas et qu'il se présente à Lodevin, comment devrais-je réagir ? En me précipitant sur l'épi assemblé et donc en révélant ma présence, ou bien en laissant Lodevin interroger le petit homme et en apprendre encore davantage sur nous ? J'envisageais de surveiller Lourd jusqu'à ce que l'agent infiltré à Castelserre le contacte pour l'emmener à la ville et capturer alors l'homme. Je ne doutais guère de parvenir à lui arracher l'adresse de Lodevin, mais son absence au rendez-vous mettrait la puce à l'oreille du manchot. Or, je ne voulais pas risquer d'effrayer l'oiseau avant d'avoir tendu mes raies. La seule stratégie possible paraissait la plus simple. Trouver un prétexte pour empêcher Lourd de descendre au bourg le lendemain. Le distraire à l'aide de jouets, ou tout bonnement lui donner une corvée à exécuter là où nul ne pourrait venir le chercher sans attirer l'attention. Malheureusement, cela ne m'apprendrait rien sur Lodevin. Et je voulais plus que tout au monde le tenir en mon pouvoir. Il fallait absolument que je le tue. Je le savais. Il n'est pire ennemi que celui qu'on a gravement mutilé. Or, je ne l'avais pas seulement privé de son bras, mais aussi de sa sœur et de sa vie chétive, et j'avais anéanti leurs vains efforts pour s'emparer du trône. Peut-être avait-il rêvé naguère d'accroître la puissance de son groupe, celui des Pies, mais il était sans doute animé désormais par la haine qu'il me vouait et sa volonté de se venger des loin voyants. Imposait-il des limites à la cruauté de la vengeance qu'il comptait tirer de moi ? Cela m'eût étonné. Je croisais mes bras sur ma poitrine et me laissais aller contre le dossier de mon fauteuil, les sourcils froncés, les yeux fixés sur le feu. Peut-être me trompais-je du tout au tout. Peut-être Lodevin se trouvait-il à Bourg-de-Castelserre en seule qualité de représentant des vifiers auprès de Kétriken. Peut-être ses mesures d'espionnage ne répondaient-elles qu'à une simple et honnête prudence. Mais j'en doutais. J'en doutais fort. Je ne tenais pas à discuter de la question avec Imbre. C'était mon nom que Lodevin connaissait, mon enfant qu'il menaçait. C'était donc à moi de décider de son sort à présent. Imbre tempêterait et m'accablerait de reproches à coup sûr, mais il devrait attendre pour cela Corti et devoir fût-ce hors de danger. Plus je songeais à la situation, plus l'exaspération que j'éprouvais à me voir incapable d'agir grandissait. Je quittai la salle d'Imbre, descendis les escaliers et sortis par ma chambre. Je ne vis ni le fou ni Sire Doré, ce qui n'apaisa pas mon irritation. Il fallait que je réfléchisse, mais je ne tenais pas en place. Je me rendis donc au terrain d'exercice, couvert de neige, en emportant ma vieille épée de service. La belle arme que le fou m'avait offerte resta pendue au mur, témoin muet et sans pitié de ma stupidité. La chance me sourit. Oui, m'était là. Je pratiquai mes assouplissements avec mon épée et m'échauffai rapidement malgré le froid. Puis Wim et moi prîmes des armes émoussées pour nous affronter. Il parut se rendre compte que je désirais seulement m'activer physiquement, sans parler ni engager mon esprit plus loin que la maîtrise de mes mouvements. Je chassai mes préoccupations de mes pensées et me concentrai sur un seul objectif, tuer mon adversaire. Quand il recula brusquement d'un pas et déclara « Assez !», je crus qu'il désirait que nous nous interrompions, le temps de reprendre notre souffle. Mais il baissa la pointe de son épée jusqu'au sol et poursuivit. « Je ne connais pas votre passé, Tom, mais je pense que vous êtes redevenu ce que vous étiez. »« Je ne comprends pas, » répondis-je après l'avoir regardé un moment haleté. Il inspira profondément. « Quand nous avons commencé à nous affûter l'un contre l'autre, j'ai senti en vous un combattant qui cherchait à se retrouver. C'est fait, à présent. » Vous êtes rentré dans votre ancienne peau, Tom Blaireau. Désormais, je suis capable de tenir devant vous, mais pas davantage. Je serais ravi de continuer à exercer ma technique face à vous, mais si vous désirez vraiment mettre vos talents à l'épreuve, ou si vous cherchez quelqu'un capable de vous en apprendre plus, ce n'est plus à moi qu'il faut vous adresser. Il transféra son épée dans sa main gauche et s'avança en me tendant la droite. Une vague de chaleur m'envahit des pieds à la tête. Il y avait des années que je n'avais plus éprouvé une telle fierté, non de moi-même, mais de l'honneur que m'accordait ce vétéran en prononçant ces paroles. Quand j'ai quitté les terrains d'exercice, le fardeau de mes soucis n'avait pas changé, et pourtant, il me paraissait allégé par l'idée que je possédais les moyens d'y faire face. Je m'arrêtai aux étuves, en m'interdisant toujours soigneusement de songer à mes futures actions,
et j'en ressortis le corps purifié, la volonté affermie et l'esprit clarifié. Je pris la route de Bourg-de-Castelserre. J'avais plusieurs courses à effectuer, voir heures, acheter un couteau et une écharpe rouge, et peut-être chercher une rue passante où l'on entendait bêler une chèvre et sonner au loin des marteaux de forgerons.